d'évoquer les questions que suscite une question fondamentale, qui est de savoir s'il faut protéger davantage la création que les autres formes d'expression. Et si oui, comment on défend l'art autrement que par l'argument de l'exception artistique, hein, dont on a montré tout à l'heure à quel point c'est un argument qui n'a plus vraiment de valeur pour le grand public, hein, et notamment quand on connaît l'évolution de la définition de l'art à l'époque contemporaine. À en croire quelques décisions judiciaires de ces 20 dernières années et un bon nombre de travaux académiques en droit, la fiction serait devenue une catégorie phare pour défendre la création, qui permettrait de juger des créations et qui donc permettrait de sortir de cette impasse qu'est l'argument de l'exception artistique. En effet, cet argument part donc du présupposé qu'il faut appréhender l'œuvre d'art, et en particulier l'œuvre littéraire, avec des catégories de réception distinctes des autres formes d'expression, mais qu'en même temps, on se heurte immédiatement à la question de la définition de l'art et de ses limites, insolubles, une question insoluble, car on sait bien que la définition de l'art est historiquement, culturellement et sociologiquement marquée. À quoi il faut ajouter que le fait que les magistrats n'ont pas le droit de se prononcer sur la valeur artistique d'une œuvre, car ils doivent s'appuyer sur des éléments qui n'engagent pas leur subjectivité. Dans ce contexte, la fiction est apparue dans un certain nombre de décisions comme une catégorie qui permettrait de résoudre cette épineuse question et pourrait protéger la littérature. Pionnière en la matière en France, Agnès Tricouard considère que les magistrats devraient se fonder sur un principe consistant à faire valoir une exception de fiction dès lors qu'ils sont amenés à juger une création. C'est l'idée qu'elle défend notamment dans plusieurs articles ainsi que dans son ouvrage « Petit traité de la liberté de création » qui est paru en 2011. Donc elle propose de substituer à la notion de création la notion de fiction en s'appuyant notamment sur des travaux d'universitaires littéraires, de théoriciens comme Jean-Marie Schaeffer, pour défendre la thèse de l'existence du pacte de feintise ludique partagée, et avec l'idée que dans les fictions, ce pacte désamorcerait les possibles effets illicites des énoncés de création, comme la diffamation, l'atteinte à la vie privée, la provocation à la haine. On retrouve également cette idée sous la plume d'autres juristes qui considèrent que cette catégorie pourrait être au fondement d'un principe permettant de protéger davantage les créations. Édouard Trépeau, par exemple, Thomas Hochmann, qui sont donc des juristes qui travaillent sur ces questions, défendent exactement la même idée dans certains de leurs articles. Or, cet argument de la fiction, qui serait une catégorie opératoire pour défendre l'art, a bénéficié d'un certain succès dans la jurisprudence depuis un jugement du 16 novembre 2006, dont j'ai parlé vendredi lors de ma conférence, mais finalement peu de gens étaient là, donc je vais du coup un tout petit peu en reparler. Un jugement rendu sur pogrom, qui a souvent été présenté comme historique dans la reconnaissance de l'argument de la fiction par rapport au discours de haine. En effet, de nombreuses décisions ultérieures y font référence. Quand on regarde les jugements qui sont rendus par la suite, on a très souvent une citation de ce jugement du 16 novembre 2006. En 2005, Éric Beigné-Burkel a écrit un roman qui s'appelle Pogrom, dans lequel il y avait un certain nombre d'énoncés antisémites que je ne développerai pas aujourd'hui, je n'ai pas le temps. Il a été accusé d'incitation à la haine raciale. Et donc, pour juger ce roman, le tribunal a utilisé l'argument de la fiction pour faire valoir la liberté de création. Donc, encore une fois, au prix d'un raccourci entre création et fiction, le principe qui est édicté dans le jugement consiste à dire que la fiction, à l'échelle du roman, entraîne, je cite la décision, la disparition de l'élément matériel des délits. Donc s'il y a une fiction, aucun des énoncés ne peut être retenu comme provoquant à la haine parce qu'il y a fiction. Donc je cite le jugement pogrom, la notion même d'œuvre de fiction implique l'existence d'une distanciation qui qui peut être irréductible entre l'auteur lui-même et les propos ou actions de ses personnages, qu'une telle distance, appréciée sous le prisme déformant de la fiction, est susceptible d'entraîner la disparition de l'élément matériel des délits. Donc le raisonnement consiste à dire qu'à partir du moment où un roman est une fiction, il y a une distanciation intrinsèque entre l'auteur et les paroles de ses personnages, et qu'il n'est donc pas pertinent d'imputer les paroles à leur auteur. Et ceci, dans ce roman, est fait à l'échelle du roman. Donc il y a, dans cette décision, l'évaluation d'un contrat de lecture global qui consiste à lire l'essentiel du roman comme une fiction. J'ai montré vendredi que quand on examine les énoncés de ce roman un à un, comme le tribunal doit le faire, c'est beaucoup plus complexe que cela et que ça ne fonctionne pas. Mais ce n'est pas l'objet du propos aujourd'hui. Je voudrais donc évidemment revenir sur Golgotha Picnic. Alors le problème, c'est que alors que la fiction a pu apparaître comme une solution pour ne pas avoir à se prononcer sur la valeur créative, il me semble que la fiction ne résout en aucun cas le problème. En effet, on le sait quand on travaille en théorie littéraire, que les très nombreux travaux de littéraires, sociologues, stylisticiens ont montré que la fiction est aussi peu délimitable et identifiable que la création. Surtout pour les cas des œuvres litigieuses, qui sont toutes des œuvres qui cherchent à en bousculer les frontières. Donc c'est bien la raison pour laquelle elles se retrouvent devant les tribunaux. Donc l'hypothèse que je cherche à défendre est que la catégorie de la fiction, telle qu'elle est utilisée, ne résout rien et provoque une certaine insécurité juridique parce que la fiction fait l'objet de définitions très variées, donc c'est le premier point, mais aussi parce que la conception des pouvoirs de la fiction repose aussi sur un certain nombre de principes quasi magiques, et ce sont donc les points que je vais essayer d'aborder à partir du cas de Golgotha Picnic. En effet, pour l'affaire de Golgotha Picnic, quand on regarde les décisions qui ont été rendues, on peut voir une évolution des motivations concernant la fiction et qui me semble illustrer l'impasse dans laquelle se trouvent les juristes qui s'aventurent sur ce terrain du jugement de fictionnalité. Alors je précise tout de suite que l'article qui sera publié est beaucoup plus complet et malheureusement je trouve qu'on rate, on perd quelque chose aujourd'hui parce que cet article a été écrit à trois, on s'est réparti les rôles avec Mathilde et Marty. On a voulu confronter l'hypothèse de l'argument de la fiction à d'autres types de réception pour voir la place que la fiction occupe dans la réception citoyenne, c'est Marty qui s'en est occupé. Et Mathilde s'est occupée de la réception d'extrême droite en tant que grande spécialiste de l'extrême droite. Voilà. Et donc, le résultat auquel on est parvenu est que la catégorie de la fiction n'est pas mobilisée par les citoyens, ou quasiment pas, qui se prononcent en faveur ou en défaveur de la pièce. Et quant aux associations catholiques, elles font délibérément le choix de ne pas lire la pièce comme une fiction. Donc c'est un choix qui pourrait être discuté dans l'espace public, mais pour autant, ce n'est pas du tout quelque chose qui intervient dans la réception. Donc c'est un résultat en soi de voir le décalage entre la place que peut occuper l'argument de la fiction dans ses décisions et son usage comme catégorie de réception dans l'appréhension des discours de haine en dehors du tribunal. Donc c'est le résultat auquel on est apparu, ce qui apparaît pour le moins gênant quand on sait que les juristes cherchent des catégories qui permettraient d'identifier la réception du lecteur moyen, du récepteur moyen, une lecture raisonnable. C'est cela qu'on a montré dans l'article et je vous renvoie donc à la version imprimée. Ce à quoi on est parvenu aussi, c'est l'idée qu'il y a une extrême confusion dans la manipulation de l'argument de la fiction au tribunal, et donc c'est ce que je vais essayer de vous montrer aujourd'hui. Il faut juste avoir en tête que la griffe a toujours été déboutée, mais que les motivations des diverses juridictions évoluent, et c'est pour cela que c'est intéressant d'aller voir comment est mobilisé l'argument de la fiction. Alors pour cette étude, je vais procéder de manière chronologique pour qu'on puisse s'y retrouver. pour voir comment, hein, progresse, comment l'argument de la fiction évolue dans les décisions. Alors, il y a d'abord eu une ordonnance de référé en 2011 hein, qui a été rendue, où la catégorie de la fiction est utilisée pour qualifier la pièce. Le jugement de fictionnalité n'est pas contesté. Hein. Il s'agit bien d'une œuvre de fiction qui ne restitue pas la seule expression de la pensée ou de quiconque, mais qui est une création, etc. Donc, la catégorie de la fiction sert à qualifier l'œuvre en lien avec la notion de prise en charge du discours litigieux. Hein, la fiction, depuis Beni Burkel, est très souvent associée à cette question de la prise en charge. S'il y a fiction, l'auteur n'est pas l'énonciateur. Hein, c'est très proche de la question de la dissociation que les linguistes font entre le locuteur et l'énonciateur. Donc ici, on peut dire que c'est une définition énonciative de la fiction et que le caractère fictionnel est affirmé. La catégorie est présente ici, mais de manière secondaire. C'est simplement, ici, on pose un jugement de fictionnalité, mais on ne peut pas dire que ce soit vraiment de l'ordre de la motivation. En revanche, lorsque la pièce est de nouveau examinée en 2015 par le tribunal correctionnel à la suite de la plainte de 2012, la catégorie de la fiction occupe une place beaucoup plus importante à l'audience, tout d'abord. Donc, je peux parler de l'audience puisque j'y étais, hein, et j'ai pris des notes très précises parce qu'il faut savoir qu'au Québec, vous avez la chance de pouvoir avoir des transcriptions hein, des audiences. On ne les a pas en France. On est obligé de bricoler comme ça. Alors, la fiction est apparue dans l'argumentation de la défense à plusieurs reprises. Il faut d'abord dire que Jean-Michel Ribes, le directeur du théâtre du Rond-Point, ne l'utilise pas du tout lorsqu'il est appelé à la barre, mais l'argument de la fiction est utilisé par l'avocate des prévenus qui affirme que la jurisprudence est constante lorsqu'il s'agit de fiction. Et elle cite le jugement programme. C'est pour dire à quel point c'est un jugement qui sert vraiment le discours de défense de la création. Donc l'avocate dit que la fiction a le devoir de provoquer. Ce qui est étonnant ici, c'est que la fiction est simplement un substitut hein, de création, puisque normalement c'est de la création qu'on dit qu'elle a le devoir de provoquer. Pour appuyer cette thèse hein, de la fiction qui a le devoir de provoquer, la défense fait venir à la barre deux témoins de la Ligue des droits de l'homme, Françoise Dumont et Agnès Tricouart, encore elle, donc l'auteur du petit traité de la liberté de création dont je parlais tout à l'heure. Lorsqu'Agnès Tricouart évoque la pièce, elle opère elle aussi un jugement de fictionnalité en disant « il s'agit d'une œuvre de fiction », afin d'authentifier le fait qu'il s'agit d'une création. Il y a à nouveau hein, ici une confusion qui est très connue, hein, Jeannette l'a montré, entre création et fiction. Donc elle assimile sans cesse dans son discours hein, fiction, littérature et art, et elle prend l'un pour l'autre, mais dès lors qu'elle cherche à avoir un discours plus objectif, elle utilise davantage le terme de fiction. Autrement dit, pour elle, la défense insiste sur l'argument de l'exception artistique, mais comme il n'est pas entendable en tant que tel, elle le formule à travers l'argument de l'exception de fiction. Donc voilà le glissement qui est opéré dans l'argumentaire de la défense. Lorsqu'il s'agit de défendre la création, on défend la fiction. Évidemment, du côté de l'accusation, la pièce est traité au même titre que n'importe quel discours. Il n'est même pas question de fiction, hein, ce n'est pas l'objet du débat. Or, on peut s'étonner hein, de voir la procureure qui, elle, articule son réquisitoire autour de deux points. La cible des propos, hein, c'est ce qui est normal, on en a parlé à plusieurs reprises, hein, est-ce que c'est la religion, est-ce que ce sont les chrétiens, mais aussi le contexte d'énonciation, hein, qu'elle appelle le contexte de publication. Et ce contexte de publication, elle l'apprécie précisément à partir de la catégorie de la fiction. Elle dit hein, « c'est incontestablement une œuvre de fiction et ce point n'est point contesté par la griffe ». Un peu plus loin, elle évoque le fait que l'œuvre de fiction, je cite, « ne restitue pas la pensée de l'auteur ». Donc l'œuvre de fiction ne restitue pas la pensée de l'auteur. Et encore un peu plus loin, elle rattache la fiction à la catégorie de la création par le biais de la qualification de la pièce en œuvre littéraire. Donc on voit là encore un mélange, une confusion entre toutes ces catégories. Et voici ce qui apparaît du réquisitoire de la procureure dans le jugement. Donc là, je cite le jugement, mais qui cite le réquisitoire. Le ministère public a requis en revanche le relax au motif, d'une part, que les propos incriminés relevaient sans aucun doute d'une œuvre de fiction, non soumise à des limitations d'ordre esthétique, moral ou religieux, d'autre part, qu'il ne visait à l'évidence pas les chrétiens. Ce sont les deux éléments dont j'avais parlé, à la fois la question de la cible, ce n'est pas ce que je traite ici, mais le fait que l'œuvre de fiction est présupposée comme ne devant pas être soumise à des limitations d'ordre esthétique, moral ou religieux. Donc on voit bien ici, dans les motivations, comment en droit on présuppose un certain nombre de points. Ici, on présuppose une exception et une impunité de la fiction qui n'est pourtant garantie par aucun texte explicitement, comme si cela allait de soi, au prix, encore une fois, d'un glissement qui va de l'exception de création à l'exception de fiction, tout en considérant pourtant être plus objectif en utilisant le terme d'exception de fiction. Mais il me semble que ça ne résout rien, c'est simplement une sorte d'illusion d'objectivité lorsque le terme est utilisé. Donc maintenant j'en viens au jugement. Lorsqu'il rend son jugement qui déboute la griffe, le tribunal correctionnel se fonde surtout sur la cible du discours. Il ne faut pas se tromper, c'est surtout cela qui est retenu, à savoir que la pièce vise la religion chrétienne et pas les chrétiens. Mais pour autant, l'argument de la fiction figure dans les motivations, puisque on peut lire dans le jugement qui est rendu par la 17e chambre, il doit être relevé que les propos s'intègrent, ce point n'étant contesté par aucune des parties, dans une œuvre de fiction à vocation purement artistique et ne prétendant nullement à l'affirmation d'une vérité historique ou scientifique. Donc on voit bien ici un jugement de fictionnalité qui est opéré en reprenant exactement l'argumentation de la défense, là c'est vraiment un copier-coller de l'argumentation de la défense, consistant à associer fiction et création par la mention de la vocation purement artistique. Donc la présence dans le jugement peut surprendre, puisque finalement, ça ne sert à rien ici, ça ne permet pas du tout d'arbitrer en faveur ou en défaveur de la pièce. Donc ce n'est pas un véritable argument, et il me semble que si le tribunal l'utilise, reprend ces termes de fiction, c'est peut-être pour donner des gages aux défenseurs de la liberté de création, en montrant qu'ils ont été écoutés. Il y a une dimension psychologique très forte dans un jugement. J'ai interrogé dans le cadre de mon travail les juges de la 17e chambre qui, en l'occurrence, là c'était Fabienne Sirot-Desgarnier, qui elle-même explique que lorsqu'elle rédige un jugement, elle prend garde à la psychologie des défenseurs en montrant qu'ils ont entendu un certain nombre d'arguments. Donc ici, on a cette impression de gratuité la place de l'argument de la fiction, puisque ça ne permet pas du tout d'arbitrer le débat. Pourtant, malgré ce caractère secondaire de la catégorie de la fiction dans le jugement du tribunal, elle devient un enjeu beaucoup plus important du débat en appel. Donc j'en viens maintenant à la question de la procédure en appel. En effet, l'avocat de la griffe, Jérôme Triomphe, retourne l'argument de la fiction, soulignant l'absence de pertinence de cette catégorie pour évaluer une provocation à la haine. Et c'est ce qu'on peut lire dans l'arrêt qui a été rendu par la Cour d'appel de Paris le 22 juin 2016, dans le passage qui est consacré à donner les arguments de l'accusation. Alors, considérant que la griffe fait valoir au soutien de son appel, en premier lieu, que le fait qu'il s'agisse d'une œuvre de fiction ou artistique est indifférent, en donnant l'exemple de Dieudonné, qui, bien que faisant profession d'artiste et d'humoriste, est malgré tout régulièrement, judiciairement condamné. Qu'est-ce que l'on peut voir ici? C'est à nouveau une confusion, œuvre de fiction ou artistique, par le biais de la conjonction « ou ». Et c'est un argument un peu retors de la part de Jérôme Triomphe. En effet, il repose encore une fois sur la confusion dans la définition de fiction. Je m'explique. Il explique ici que, contrairement à ce qu'on pourrait imaginer, la fiction ne permet pas systématiquement, l'exception de fiction n'existe pas systématiquement. Regardez, Dieudonné a été condamné. Or, ça, c'est la fiction entendue comme création. Si on entend la fiction comme une distanciation entre l'auteur et l'énonciateur, en revanche, on peut dire que Dieudonné est exclu de la notion de fiction. Donc il y a bien une sorte d'ambiguïté très forte, c'est-à-dire que selon la définition que l'on donne de la fiction, on ne va pas inclure ou exclure les mêmes œuvres. Et il me semble ici que, consciemment ou inconsciemment, Jérôme Triomphe met en lumière, l'avocat de la griffe, met en lumière le problème de définition du terme de fiction, en montrant que il y a un manque de constance dans les décisions. Donc voilà l'argument de Jérôme Triomphe. Voilà, j'en viens maintenant à la façon dont la Cour d'appel confirme le jugement de première instance et prend une position remarquable face à l'argument de la fiction. Voici ce qu'elle dit par rapport à la fiction. Que ces propos sont extraits d'une œuvre de fiction ayant donné lieu à des représentations théâtrales, ce qui, certes, n'exclut pas nécessairement qu'il ne puisse délivrer, sous couvert de l'humour notamment, un message clairement incitatif à la discrimination ou au rejet de la communauté choisie par l'auteur comme cible, par l'auteur du spectacle. Alors, on voit ici, dans cette citation, d'une certaine façon, la Cour d'appel donne raison à la griffe dans le fait de dire l'illégitimité de l'impunité de la fiction, puisqu'elle dit bien « c'est une fiction ». Donc là, la question n'est pas de savoir si on exclut ou si on inclut Golgotha Picnic du jugement de fictionnalité, mais par le biais d'une précision, dans une parenthèse, ce qui certes n'exclut pas nécessairement qu'il ne puisse délivrer un message clairement incitatif à la discrimination, il me semble que dans cette parenthèse, pour la première fois dans les décisions sur Golgotha, elle porte sur la question des effets de la fiction et sur la question des pouvoirs de la fiction, ce qui n'avait pas du tout été évoqué précédemment. Pourtant, c'est une question fondamentale qui est de savoir si une fiction a des effets dans l'espace social. Or, dans toutes les décisions où la fiction est considérée comme pouvant faire disparaître l'élément matériel des délits, la question des pouvoirs de la fiction est complètement niée. C'est-à-dire que à partir du moment où c'est une fiction, elle n'a pas de pouvoir dans l'espace social. Or, là, dans cet arrêt de cour d'appel, justement, par le biais de cette petite parenthèse, il y a une remise en question de cet argument, et ça me semble fondamental. D'ailleurs, si on regarde ce qu'en dit la Cour de cassation, elle rejette le pouvoir de la griffe, et elle évacue complètement l'argument de la fiction dans l'exposé de ses motifs, se fondant uniquement sur la question de est-ce qu'il y a exhortation ou pas à la haine. Donc, il me semble ici que c'est une façon d'évacuer l'argument de la fiction parce qu'il provoque une grande insécurité, à la fois parce que ses modalités de compréhension et d'application diffèrent totalement, donc elle laisse une impression d'arbitraire. On voit bien qu'on a des définitions différentes qui peuvent permettre d'inclure ou d'exclure selon les points de vue, selon qu'on en ait une définition énonciative, selon qu'on l'assimile à la création. Donc c'est un argument qui est très fortement fragilisé, puisqu'il peut renvoyer à une analyse énonciative, sans considération pragmatique, comme si la parole d'un personnage n'avait aucun pouvoir dans l'espace social. Donc de cet examen des décisions rendues dans l'affaire Golgotha Picnic, on peut donc conclure que la catégorie de la fiction est évacuée progressivement, et j'y vois une évolution qui me semble assez récente. Quand on regarde la jurisprudence pour la création, il y a eu une sorte de mode de l'argument de la création, de la fiction, pardon, et il me semble qu'on en revient. Alors, pour reparler de l'affaire Nick Conrad, le rappeur condamné pour le racisme anti-blanc, l'avocat de Nick Conrad a utilisé pour son argumentaire l'argument de la fiction à nouveau. C'est de la fiction, donc on ne condamne pas. Mais pour autant, qui dit que parce que c'est de la fiction, il n'y a pas d'incitation à la haine? Ce raccourci-là est évidemment absolument contestable et fondé sur aucun fondement théorique. Et donc c'est sur cela que je voulais revenir, évoquer le fait que sa disparition dans l'arrêt rendu par la plus haute juridiction française au sujet de Golgotha Picnic semble plutôt rassurer par rapport au flou qu'avait introduit cet argument de la fiction.